Vous écoutez On lit pour vous.
Bientôt, du saké montréalais. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 19 janvier 2026 dans la presse. L'idée de fonder une brasserie de saké est née dans un restaurant indien. Le couple Yota et Noriko Suzuki s'étaient installés à Montréal depuis quelques années. Tous les deux travaillaient au buffet Maharani dans le quartier Parc Extension. Le propriétaire du restaurant a appris que Yota a été maître brasseur de saké au Japon. « J'avais un maître de saké devant moi. Il fallait faire quelque chose de mieux que du travail de cuisine », lance le restaurateur Mazum Rahman, maintenant copropriétaire de la brasserie Sanhon Saké, née durant les mois de turbulence de la COVID-19. Sanho, qui veut dire « Mont-Royal » en japonais, est maintenant installé dans un immeuble de bureaux de la métropole, à deux pas du marché central. Assurément pas l'endroit où l'on croirait trouver une fabrique de saké. C'est pourtant bien ici que l'entreprise produit un ingrédient méconnu du grand public, le koji, qui est au cœur de la production du saké. Il s'agit d'un riz sur lequel on a ajouté une bactérie qui le fait fermenter. Un savoir-faire traditionnel nippon. Pour l'instant, aucun saké n'est commercialisé. La brasserie a obtenu son permis de la Régie des alcools, RACJ, en 2025 pour produire son saké, ce qu'elle fait depuis quelques mois, à des fins de test. Car il faudra obtenir une place à la SAQ pour le commercialiser. L'entreprise fait déjà une bière de koji et des produits issus de la fermentation. Le saké devrait apparaître sur les tablettes quelque part cette année, selon les souhaits de Sanho. Noriko Suzuki apprend à la dure que les lois entourant la production et la commercialisation de l'alcool sont complexes au Québec. « C'est un défi », dit-elle, en avouant du même coup qu'elle est prête à le relever. Et visiblement, elle a fait ses devoirs. L'entreprise va présenter un prêt-à-boire de saké à 5 % d'alcool à la SAQ en deux versions, nature et yuzu, cet agrume japonais populaire. La canette est très belle, le design est simple, le produit est local, mais le riz vient des États-Unis, même si les propriétaires de Sanho rêvent de faire pousser le riz ici, et ils croient que ça se fera. En attendant des rizières québécoises, la fabrique travaille avec de l'orge québécoise qu'elle fermente. En plus de la bière, produite depuis plus de 6 mois, Sanho a développé une gamme de produits autour du koji, dont des miso avec du soya québécois. Plusieurs produits. D'autres entreprises d'ici font du miso, mais aucune autre ne commercialise le koji. Pour une excellente raison, cet ingrédient est encore très méconnu au Québec. Personne ici ne se concentrait sur le koji, confirme Noriko Suzuki. Alors, qui en achète? Les grands chefs, explique-t-elle, citant parmi sa clientèle les étoilés Michelin que sont devenus l'année dernière le Master et le Sabayon. Mais il n'y a pas qu'eux. Durant notre visite à la fabrique de saké, un client est passé chercher sa ration. Le monsieur en question s'intéresse à la fermentation et joue avec le koji dans sa cuisine, par pur plaisir. Il s'en sert notamment pour attendrir la viande. Sanho a développé des produits faits avec cet ingrédient mystérieux, dont une tartinade au cacao et à la noisette qui ne comporte que 4 ingrédients. En plus des 2 déjà mentionnés, il y a un peu de sel de mer et l'amazake fait à partir du koji fermenté. On pourrait croire ces ingrédients trop mystérieux pour le commun des mortels, mais la pâte à tartiner a obtenu le prix de l'innovation au dernier SIAL, S-I-A-L, le Salon international de l'alimentation du Canada. Cette année est importante pour la brasserie. La production de bière va augmenter, seulement 800 litres en 2025, et on travaille aussi sur un alcool hybride entre la bière et le saké pour se faire une place dans le marché des boissons moins alcoolisées et très sophistiquées qui plaisent aux chefs qui veulent faire des accords et aux consommateurs qui veulent innover. C'était « Bientôt du saké montréalais », un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 19 janvier 2026 dans La Presse.
La Chine présente-t-elle la menace que prétend Trump dans l'Arctique ? Un texte de l'AFP, publié le 13 janvier 2026 sur le site de TVA Nouvelles. Auteur non précisé. Le président Donald Trump répète à l'envi que les États-Unis mettront la main sur le Groenland, territoire autonome du Danemark, pour contenir les avancées de la Russie en Arctique, mais aussi celles moins flagrantes de la Chine. Au-delà de la Russie, qui possède un immense linéaire de côtes arctiques, l'AFP a examiné la véracité des propos de M. Trump sur la présence de la Chine, dont le point le plus septentrional se situe à environ 1500 km du cercle arctique. Les experts suggèrent qu'en réalité, la Chine reste pour l'instant un acteur marginal, même si elle a accru ses activités ces dernières années. Des bâtiments chinois partout ? On voit des destroyers et des sous-marins russes et des destroyers et des sous-marins chinois un peu partout, affirme M. Trump. Le Groenland ne grouille pas de navires chinois et russes, c'est absurde, dit Pål Sigurd Hilde du Norwegian Institute for Defence Studies. Dans d'autres parties de l'Arctique, la présence militaire chinoise, certes modeste, s'est accrue en collaboration avec la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le seul moyen pour la Chine d'acquérir une influence significative dans l'Arctique passe par la Russie, son voisin, dit Sigurd Hilde. Les deux pays ont intensifié leurs opérations conjointes dans l'Arctique. Des bombardiers russes et chinois ont mené en 2024 une patrouille commune à la jonction entre les continents asiatiques et américains, non loin de l'État américain de l'Alaska. La Chine opère quelques brise-glaces équipés de mini-sous-marins de haute mer, capables de cartographier les fonds, des repérages potentiellement utiles à des fins militaires. Elle opère aussi des satellites d'observation de l'Arctique. Pékin assure que ses visées sont scientifiques. Une influence grandissante ? Ces agissements constituent des préoccupations potentielles en matière de sécurité si l'armée chinoise ou des entités liées à l'armée établissent une présence régulière dans la région, dit Elena Lagarda du Mercator Institute for China Studies à Berlin. La Chine a l'ambition claire d'étendre son empreinte et son influence dans la région, qu'elle considère comme un théâtre émergent de compétition géopolitique, déclare-t-elle. La Chine a lancé en 2018 son projet de route de la soie polaire, déclinaison arctique de son initiative transnationale d'infrastructure, et ambitionne de devenir une grande puissance polaire d'ici à 2030. Elle a établi des stations de recherche scientifiques en Islande et en Norvège. Des entreprises chinoises ont investi dans des projets tels que le gaz naturel liquéfié russe et une ligne de chemin de fer suédoise. Cependant, la Chine se heurte à des résistances. Des projets d'achat d'une base navale abandonnée au Groenland et d'un aéroport en Finlande ont avorté. Le Groenland a renoncé en 2019 à utiliser les équipements de Huawei pour ses réseaux 5G. La Chine investit massivement en revanche dans les ressources et les ports sur la côte septentrionale de la Russie. Quelles ressources ? Le Groenland possède les 8e plus grandes réserves mondiales de terres rares, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis. La Chine domine de loin l'extraction, la séparation et le raffinage des terres rares dans le monde. Mais ses efforts pour exploiter la manne groenlandaise n'ont eu qu'un succès limité. Le gouvernement groenlandais a stoppé en 2021 un projet impliquant la Chine autour d'un important gisement à Knefjell pour des raisons environnementales. Un intense lobbying américain a débouché sur la vente en 2024 d'un autre gisement à une entreprise new-yorkaise. On craignait il y a une dizaine d'années au Danemark et aux États-Unis que des investissements miniers représentant plusieurs fois le PIB du Groenland n'entraînent une influence chinoise, mais ces investissements ne se sont jamais concrétisés, observe Jasper Willing-Zersen, professeur associé à l'université d'Aalborg au Danemark. Aujourd'hui, les réticences à s'engager sont fortes du côté chinois parce que le coût diplomatique est devenu trop élevé. Quelle route empruntent les navires chinois ? La route de la soie polaire vise à relier la Chine et l'Europe via les routes arctiques, de plus en plus accessibles avec la fonte de la glace. La Chine et la Russie se sont entendues en octobre pour développer la route maritime du Nord le long de la frontière nord de la Russie. L'an dernier, un navire chinois a atteint la Grande-Bretagne en 20 jours via l'Arctique, soit deux fois moins de temps que par la voie habituelle du canal de Suez. Mais la route du Nord reste dangereuse et coûteuse et des navires chinois ne l'ont empruntée que 14 fois en 2025, principalement pour transporter du gaz russe. La route maritime du Nord ne passe pas par le Groenland. Elle peut donc difficilement justifier les affirmations de M. Trump sur la présence chinoise le long de ses côtes. Il n'existe aucun signe d'activité militaire chinoise dans ou autour de la partie arctique du Groenland, dit Jesper Willingshausen. On a beaucoup de mal à identifier un véritable problème sécuritaire, dit-il. C'était « La Chine représente-t-elle la menace que prétend Trump dans l'Arctique ?» un texte de l'AFP, publié le 13 janvier 2026 sur le site de TVA Nouvelles.
L'art du souffle, un texte de Catherine Enfield, publié dans la presse du 1er mars 2026. A. La respiration. Les professionnels de la santé la suggèrent pour apaiser le stress, la douleur et même les symptômes digestifs. D'accord, mais comment respirer autrement que ce qu'on fait naturellement 20 000 fois par jour? Entrevue avec le Dr David O'Hare, expert en cohérence cardiaque. Le Dr David O'Hare enseigne depuis 20 ans la cohérence cardiaque, un état que l'on atteint en respirant lentement et régulièrement. La demande qu'on lui fait le plus souvent? Enseignez-moi à respirer. C'est la mission qu'il s'est lancée en écrivant le grand livre des souffles, publié aux éditions Soukar. Citation. Il y a 2 ans, j'ai eu un accident qui m'a immobilisé pendant 1 an, raconte le Dr O'Hare, joint en France, où il habite maintenant, après avoir passé 18 ans à Montréal. J'ai donc eu le temps de revoir tout ce que j'avais lu et de chercher les points communs entre le yoga, le soufisme, d'autres pratiques respiratoires, la pleine conscience. Et c'est ça que j'ai voulu rassembler dans ce livre. Fin de citation. Si la respiration est utilisée depuis des millénaires dans presque toutes les pratiques de santé, dit-il, ce n'est pas un hasard. Citation. C'est pratiquement la seule façon que nous avons d'aller modifier notre système automatique d'adaptation, dit-il. Fin de citation. Il compare la respiration à une télécommande du système nerveux autonome qui régule la tension artérielle, le rythme cardiaque, la digestion et autres. Cette télécommande a différents boutons sur lesquels on peut appuyer en fonction de son intention, dit-il. On peut jouer, entre autres, avec le cycle respiratoire, la durée de l'inspiration et de l'expiration, par exemple, les ondes de mobilisation, comme la zone abdominale, les voies respiratoires, nez ou bouche, ce vers quoi on dirige notre attention, comme en pleine conscience, etc. À notre demande, le Dr O'Hare propose 3 techniques respiratoires accessibles, conçues respectivement pour restaurer l'équilibre, apaiser l'anxiété et soulager la douleur. À pratiquer 3 à 5 minutes, les yeux fermés. Première des 3 techniques respiratoires accessibles, le point zéro. Intention, retrouver l'équilibre lorsqu'on se sent un peu dispersé. Il s'agit simplement d'égaliser le temps inspiratoire et le temps expiratoire, avec l'intention de se stabiliser et en prêtant attention à sa respiration. Par exemple, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, 4 ou 6, peu importe. Citation. On peut compter mentalement ou taper sur la table comme un petit métronome. indique le docteur O'Hare. Chaque fois qu'on inspire, le cœur accélère, et chaque fois qu'on expire, il ralentit. Citation, quand on égalise volontairement le temps inspiratoire et le temps expiratoire, on met physiologiquement le système nerveux au neutre. Seconde technique respiratoire accessible, la descente douce. L'intention, s'apaiser lorsqu'on ressent beaucoup de stress. Face au stress, la respiration s'accélère. C'est un réflexe qui prépare le corps à la fuite ou au combat. L'idée consiste donc à ralentir volontairement son souffle pour désactiver cette réponse de survie. En position assise, on inspire naturellement en gonflant le ventre et on laisse l'expiration durer plus longtemps en laissant descendre ses épaules. Citation, on ne force pas les muscles pour expirer l'air. On laisse simplement nos côtes revenir en imaginant le souffle sortir vers le bas, illustre le docteur O'Hare, fin de citation. On peut renforcer l'exercice en appuyant très doucement sur le ventre à l'expiration. Troisième et dernière technique respiratoire accessible, la chaleur autour. L'intention, diriger sa respiration pour apaiser une douleur. Lorsque c'est possible, on pose la main sur la région douloureuse et on visualise sa douleur comme un volume. Citation, à l'inspiration, on imagine une chaleur douce qui vient totalement entourer la zone, explique le docteur O'Hare, fin de citation. Et à l'expiration, encore une fois, un peu plus longue que l'inspiration, citation, on imagine un air chaud venir gonfler doucement le ballon qui contient la douleur, fin de citation. Et on peut se répéter mentalement son intention, tel un mantra. J'apaise, je calme, j'apaise. Et c'est sur cette recommandation que Catherine Anfield met un terme à cette chronique santé titrée « L'art du souffle » publiée dans la presse du 1er mars 2026.
Les décisions de Trump risquent d'affecter la qualité de l'air au Québec. Un texte de Stéphane Blais de la Presse canadienne paru le 18 février 2026 dans Le Devoir. Plusieurs décisions du gouvernement Trump risquent d'avoir un impact sur la qualité de l'air au Québec et au Canada et, par conséquent, sur la santé de la population. Deux Canadiens sur trois vivent à moins de 100 km de la frontière avec les États-Unis et l'air qu'ils respirent contient, en raison des vents dominants, des polluants atmosphériques créés dans le pays voisin. Par exemple, 28 % des particules fines, PM2.5, présentes dans l'air du sud du Québec proviendrait des États-Unis, selon une étude publiée en 2024, à laquelle le professeur de chimie, Patrick Hayes, a participé. On sait que nous sommes mal placés dans le sud du Québec parce que les vents dominants transportent des polluants produits aux États-Unis au-dessus de nos têtes, a expliqué le professeur de chimie à l'Université de Montréal. Selon le spécialiste de la chimie atmosphérique, la suppression annoncée ou prévue de différents règlements sur la pollution aux États-Unis risque fortement d'avoir un impact sur la qualité de l'air au Canada. C'est aussi l'opinion de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, AQME, qui s'inquiète des conséquences que les politiques américaines auront sur la santé des Canadiens. Si la pollution américaine augmente par une déréglementation des énergies fossiles, par une hausse de la production d'énergie des centrales au charbon, par la déréglementation d'émissions des automobiles, ça va avoir un impact négatif sur la pollution de l'air au Canada et sur la santé des Canadiens en termes de décès prématurés, mais aussi d'asthme, de maladies respiratoires chroniques, de cancer du poumon, de maladies cardiovasculaires, etc. A indiqué Joanne Elsener, porte-parole de l'AQME. Le son de cloche est semblable du côté de David Kaiser, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Le Dr Kaiser s'est dit particulièrement préoccupé par l'augmentation possible des particules fines, une pollution qui génère un fardeau très important en termes d'impact sur la santé. Selon lui, à court terme, une augmentation des PM2.5 provenant de la pollution transfrontalière contribuerait à plus de journées de smog. Et lors des journées de smog, il y a plus d'hospitalisations et de décès, notamment chez les personnes qui ont des problèmes respiratoires ou qui font de l'asthme. À long terme, lorsqu'on est exposé pendant des années, voire des décennies, on sait que les particules fines sont associées au cancer du poumon et aux maladies cardiaques. Selon l'AQME, les PM2.5, des particules fines de 2,5 micromètres de diamètre, sont particulièrement nocives pour l'être humain, car leur petite taille leur permet d'être absorbées par les voies respiratoires, de circuler dans le réseau sanguin et de s'accumuler dans les organes du corps humain. Du sud vers le nord et l'est. La pollution transfrontalière est un enjeu pour une partie importante de la population canadienne et les villes frontalières sont, de façon générale, celles qui subissent le plus ce problème. Par exemple, dans la ville de Windsor, en Ontario, plus de 80 % des PM2.5 dans l'air provenaient des États-Unis, selon un rapport produit conjointement en 2013 par l'Agence américaine de protection de l'environnement et Environnement Canada. Ce même rapport indiquait qu'environ 20 % des émissions de PM2.5 à Toronto étaient originaires des États-Unis. À Ottawa, le pourcentage des émissions de PM2.5 d'origine américaine dans l'air était d'environ 25 % et à Québec, il se situait autour de 20 % Dans les provinces de l'Est, les vents dominants transportent généralement les polluants atmosphériques du sud vers le nord et vers l'est. Pour la majorité des villes américaines relativement proches de la frontière, le rapport de 2013 souligne que ce sont les émissions américaines de particules fines qui sont prédominantes dans l'air. Néanmoins, soulignait le rapport écrit par Washington et Ottawa, les villes de Seattle, à Washington, Grand Forks, Dakota du Nord, et Buffalo, New York, sont des exemples de villes où les niveaux de PM2.5 étaient influencés par les émissions canadiennes. Déréglementation historique. Depuis le début de son deuxième mandat, le président Trump a multiplié les démarches pour assouplir ou éliminer des normes environnementales instaurées par ses prédécesseurs. Par exemple, en novembre 2025, l'administration Trump a demandé à une cour d'appel d'annuler une norme instaurée par l'administration Biden pour réduire la quantité de PM2.5 dans l'air et elle a récemment mis fin aux normes d'émissions pour les véhicules. La Maison-Blanche a également débloqué 200 milliards de dollars en financement à l'industrie du charbon, une source importante de pollution transfrontalière. Cette industrie était d'ailleurs largement responsable des pluies acides au Canada dans les années 1970-1980. Lorsque le 12 février 2026, la Maison-Blanche a abrogé un texte adopté sous Barack Obama et servant de fondement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, le secrétaire à l'environnement, Lee Zeldin, a déclaré qu'il s'agissait de la plus importante mesure de déréglementation de l'histoire des États-Unis. Même si David Kaiser, le médecin spécialiste en santé publique, se dit préoccupé par l'augmentation probable de la pollution transfrontalière, il soutient qu'il ne faut pas perdre de vue que la majorité des particules fines sur notre territoire, près de 70 % dans le cas de Montréal, viennent de chez nous. Il ne faut pas que ce qui se passe aux États-Unis détourne notre attention sur ce qu'on peut faire ici, a-t-il commenté. Si on réduit le nombre de véhicules sur les routes, si on fait un vrai effort pour réduire notre consommation d'énergie fossile et qu'on évite le chauffage au bois, alors on diminuera la quantité de PM2.5. Et on se donne la chance de protéger notre santé, a souligné le médecin. Les PM2.5 sont émises sous forme de poussière et proviennent des gaz d'échappement des véhicules, de l'agriculture, des incendies de forêt ou de la combustion de bois, mais aussi de sociétés industrielles qui brûlent du mazout ou du charbon, entre autres. C'était « Les décisions de Trump risquent d'affecter la qualité de l'air au Québec ». Un texte de Stéphane Blais de la Presse canadienne, paru le 18 février 2026 dans Le Devoir.